en mémoire qui nous devons saluer en toute fin de séance. Alors prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous donnes, pour ce moment que tu as déjà préparé pour nous tous afin, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole et de recevoir de toi les instructions qui nous seront propices pour la journée d'aujourd'hui, mais aussi, Seigneur, pour le restant de notre existence. Parle, Seigneur, et ne retiens point. Instruis-nous, nourris-nous, abreuve-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que ta parole nous éclaire. Façonne-nous, Seigneur, afin d'être les hommes, les femmes que tu désires que l'on soit. Merci, Seigneur, de toucher ma sœur ce matin. Merci de rencontrer mon frère ce matin et de nous bénir tous et chacun, oh Dieu. Merci pour cette journée, pour ce souffle de vie, pour le défi que représente cette journée, mais surtout pour toutes les victoires que tu nous accordes encore aujourd'hui. Alors Seigneur, nous avons prié en ton nom, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on ouvre nos Bibles toujours dans Philippiens au chapitre 3. Aujourd'hui, c'est le verset 14 qui nous sert de base pour notre méditation, mais je vais quand même lire pour vous du verset 12 au verset 16, et après ça, je vais répéter le verset 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en arrière, en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et je répète le verset d'aujourd'hui, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, trois parties ce matin. Je cours vers le but, première partie. Deuxième partie, pour remporter le prix. Troisième partie, de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et on va débuter tout de suite avec cette première partie. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Courir est un terme qu'on a déjà étudié il y a deux jours dans le verset 12 qui se dit en grec dioko, D-I-O-K-O, je répète D-I-O-K-O, qui veut dire poursuivre, poursuivre une chose avec un vif désir de l'acquérir. Et l'exemple qu'on avait souligné ou qu'on avait donné pour illustrer, c'était la course de l'évrier, ces chiens de course, et sur le côté de la piste, on attache une espèce d'appât qui va partir en toute vitesse et les chiens vont courir après cet appât en espérant le saisir. Et ça, c'est quelque chose qui les motive à aller encore plus vite ou qui les pousse, qui les tire à aller encore plus vite. Et cette même pensée que Paul va développer ici dans la question de courir cette course en ayant les yeux fixés sur le but. Donc courir pour s'approprier, pour saisir avec ce vif désir d'acquérir ou de saisir la chose qu'il poursuit. Et ici on nous dit donc qu'il court vers un but. Et à la base, ça va donc avec un verset dans 1 Corinthiens au chapitre 9, je crois que c'est le verset 25 ou 26, le verset 26 qui dit que lui ne frappe pas comme à l'aventure, ou qu'il ne court pas comme à l'aventure et qu'il ne frappe pas comme frappant dans l'air. Et il fait penser ici à ce coureur d'une part qui ne court pas en faisant le touriste. Il court, il sait comment il doit courir, il connaît la piste dans laquelle il doit faire sa course et il ne va pas à droite et à gauche en se portant d'un côté puis de l'autre et en perdant du temps ainsi. Donc c'est pas une course qui se fait à l'aventure, c'est une course qui se fait avec un but précis avec une destination précise, avec un objectif qui est très limité et qui est l'atteinte du prix ou le fait de remporter le prix lié à la vocation céleste. Donc Paul ne se promène pas dans cette vie d'ici-bas sur terre comme un touriste qui regarde ce qui se passe à droite et à gauche, mais il est un homme en mission. Il est un homme dans une course. Et je crois que ce même esprit devrait nous habiter lorsque nous pensons à notre parcours ici-bas sur terre. Parcours qui précède la vie éternelle, parcours qui précède notre présence avec Dieu pour l'éternité et qui prépare aussi notre présence avec Dieu pour l'éternité. Et Paul va donc exprimer l'idée que pour lui, il est important de ne pas perdre de temps ici-bas sur terre, mais de tout faire pour obtenir le prix qui est lié à sa course. On se rappelle que cette course est une course qui est jugée, une course qui est regardée par Dieu et aussi par une foule de témoins, et que cette course va être sanctionnée par Dieu comme ayant été adéquate, propice à recevoir un prix, ou cette course va être rejetée, va être perdue parce que nous n'aurons pas couru et concouru selon les règles. Donc Paul dit, moi je ne vais pas à l'aventure, je ne me promène pas dans cette vie terrestre comme un touriste, je suis en mission. Et toi et moi, nous sommes en mission. Il y a quelques semaines, on avait parlé qu'on était des soldats, et on dit que nous ne sommes pas des soldats qui sont en permission, qui sont en vacances, qui sont en civil, mais nous sommes des soldats qui sont actuellement, et pendant tout le restant de notre vie ici-bas sur terre, nous sommes des soldats en activité, en action, en mission. Et Paul va donc dire qu'il garde ses yeux sur le but. Je cours vers le but. Il court dans une direction et il garde ses yeux fixés sur la fin de la course, fixés sur le but, fixés sur le prix. C'est comme s'il voyait déjà le ruban qui bloque l'arrivée et qu'il va franchir comme un vainqueur. Et nous, lorsque nous courons, nous devons aussi garder les yeux vers le but. Ça nous évitera de partir à droite et à gauche. Je me rappelle lorsque je prenais mes cours de conduite, il y a déjà quelques années, le moniteur me disait, « Florent, garde tes yeux là où tu veux aller. Si tu regardes ailleurs et si tu fixes tes yeux ailleurs, le volant va aller là où tes yeux vont. » Je comprends qu'on peut pas toujours regarder strictement devant, on doit regarder nos angles morts et tout ça lorsqu'on conduit. Mais foncièrement, l'idée était, si tu veux aller tout droit, regarde au maximum tout droit. Et ici, Paul va dire, moi, je cours vers le but. Donc, il avait devant lui, il avait comme objectif, il avait comme vision le but pour lequel il courait. Et il va dire, je cours donc vers le but. Ça veut dire qu'il est en train de se rapprocher du but. Il court en direction du but. Certaines personnes courent en regardant le but, mais en s'en éloignant. Je veux dire, si le but est à ma droite et je continue tout droit, si mon but est à ma gauche et je continue tout droit, je suis en train de m'éloigner. Je peux regarder le but, mais je peux tourner autour aussi. Je peux tout simplement tourner la tête et continuer à courir toujours, et je ferai simplement des cercles autour du but et de l'objectif. Paul va dire, lui, il court vers le but. Donc, c'est ça, c'est notre tâche quotidienne de nous approcher constamment, quotidiennement, journalièrement, du but qui est celui qui a été fixé par Dieu. Donc, non, je ne cours pas à l'aventure. Oui, je cours en gardant les yeux fixés sur le but. Et oui, je fais l'effort quotidien de me rapprocher un peu plus près à chaque jour de l'objectif que Dieu a fixé pour moi. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Pour remporter le prix. Courir vers le but, c'est la seule manière de remporter le prix. Courir vers le but, c'est la seule manière d'être jugé digne de remporter le prix. Même si je regardais, si je ne m'approche pas de l'objectif, si je ne cours pas vers le but, ben je rate la raison d'être de ma course. Donc Paul va courir pour remporter le prix. Et la seule manière de remporter le prix, c'est de m'approcher de celui-ci, de m'approcher de l'objectif. Trop de personnes sont des touristes spirituels, trop de personnes sont des touristes ici-bas sur terre, trop de personnes vivent leur vie chrétienne sans un objectif clair de ce que Dieu demande d'eux et de ce que Dieu exige d'eux, sans même chercher à savoir ce que Dieu pourrait exiger de leur vie. On a déjà eu l'occasion de dire que chacun d'entre nous avons été créés pour un objectif de la part de Dieu. Il a pensé à nous de toute éternité. Il avait un plan, il avait des projets, il avait des objectifs pour nous. Et pour que nous puissions remporter le prix, pour que nous puissions être couronnés à la fin de notre course, encore faut-il avoir remporté le prix, encore faut-il avoir exécuté ce que Dieu voulait qu'on fasse, encore faut-il avoir vécu la vie qu'il voulait qu'on vive. Donc voilà pourquoi il est important à l'occasion de prendre un temps pour s'arrêter et se demander, Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ce que je suis appelé à faire? Seigneur, est-ce que je suis en train de vivre la vie que je suis supposé vivre? Seigneur, est-ce que je suis en train d'être l'ouvrier, d'être le coureur que tu désires que je sois? Paul courait pour ne laisser aucun doute, pour ne laisser aucune autre option que celle de remporter le prix. Et ça devrait être mon désir et ça devrait être ma façon d'être aussi, courir pour remporter le prix. Mais quel prix? C'est ça l'idée, c'est, mais quel prix? Le prix est rattaché au fait que l'on participe ou non à la vocation céleste. Qu'est-ce que dit Paul? Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix, mais le prix lequel? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix est rattaché au fait que l'on participe ou non à la vocation. Le prix est rattaché au fait que je prenne part ou non à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vocation, c'est le terme klesis, K-L-E-S-I-S, K-L-E-S-I-S, qui parle d'un appel, d'une invitation, d'une convocation, d'une assignation. Et malheureusement, lorsqu'on regarde ce verset, on pense souvent que c'est un verset qui parle de notre propre vocation. Ma vocation, donc l'appel de Dieu sur ma vie. Mais c'est mal lire le verset. Il ne parle pas de la vocation de Paul. Il ne dit pas « je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation céleste ». Non, il dit « je prie pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Donc c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et non pas la vocation céleste de Dieu en Paul. Donc, c'est pas ta vocation. C'est comment toi, tu participes au plan, à la vision de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Quelle vocation? La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vocation céleste, ça veut dire la vocation la plus élevée qui soit. Il y a même plus grand que ton ministère. Il y a plus grand que ton appel. Il y a plus grand que les dons que Dieu pourrait t'avoir conférés. La chose la plus grande qui soit, c'est ce qui a été accompli à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, donc le salut ou la proposition de salut à toute l'humanité. La vocation à laquelle moi et toi devons participer, la vocation à laquelle ou de laquelle Paul est en train de parler et pour lequel ou pour laquelle il court pour remporter un prix, c'est cette vocation fixée, appointée par Dieu en Jésus-Christ. Et rappelons-nous ce que veut dire Jésus-Christ comme on l'a vu à travers les dernières journées. Jésus, le terme « Jésus », qui veut dire l'éternel est mon salut, Christ, ou en grec Christos, qui veut dire loin, celui qui est mandaté, préparé pour une chose. Donc on nous dit ici que Jésus a été préparé pour une chose, le salut de l'humanité. Et l'invocation à laquelle l'Église doit prendre part, l'invocation première de tout chrétien, c'est de propager le message de l'Évangile. La Bible a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit » tel que le verset le dit. Et on sait dans notre cas que ça veut dire les baptiser dans le nom de Jésus puisque c'est ce que les apôtres ont eux-mêmes fait suite à la Pentecôte. L'important ici, c'est est-ce que nous faisons effectivement notre rôle de faire de toutes les nations des disciples, d'amener de toutes les nations la repentance, d'amener toutes les nations à la repentance et au salut à travers Jésus. C'est mon mandat, c'est ton mandat, c'est la vocation qui nous a été donnée. Très souvent, on a des gens qui veulent savoir, mais quel est mon don? Bien des gens qui sont à peine convertis, ils veulent déjà connaître c'est quoi leur ministère, comme quoi tout le monde aurait un ministère. Et vous savez ce que la Bible nous dit et ce que Paul dit, si quelqu'un a reçu un ministère, qu'il s'attache à son ministère, ça veut donc dire s'il l'a reçu. Ça veut donc dire qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu. On est tous appelés à servir. On est tous appelés à prendre part à la vocation céleste de salut en Jésus-Christ, de rédemption en Jésus-Christ, mais ce n'est pas tous qui ont été pris et donnés à l'Église comme sont les ministres dont la vie a été saisie par Dieu et a été donnée à l'Église. Il y en a qui servent et il y en a qui sont appelés à être des ministres dans le corps de Christ. Mais pour l'ensemble d'entre nous, nous sommes tous appelés à remplir la vocation à laquelle nous avons été appelés, et cette vocation n'est pas la mienne, c'est pas mon ministère, c'est pas mon service, ce ne sont pas mes dons, ce ne sont pas mes habiletés, mais c'est de répandre l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Alors la question, est-ce que tu fais ton boulot? Parce qu'il y a des gens qui prophétisent, il y a des gens qui manifestent tel don et tel don. Mais la question en bout de ligne, c'est est-ce que tu as propagé l'Évangile de Dieu? As-tu propagé la bonne nouvelle? Et la bonne nouvelle, c'est pas guérir les malades. La bonne nouvelle, c'est pas prophétiser. La bonne nouvelle, ce n'est pas enseigner. La bonne nouvelle, ce n'est pas prêcher. La bonne nouvelle, c'est partager avec un quidam, avec ton prochain, avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ton voisin, avec ton collègue, avec ton patron, d'avoir partagé l'Évangile, d'avoir annoncé clairement que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous besoin d'un sauveur et que le seul sauveur qui a été donné s'appelle Jésus-Christ. Paul, c'est ce qu'il faisait, alors que Paul était un apôtre, alors que Paul était probablement le meilleur enseignant de l'Église primitive, alors que Paul a écrit le maximum de textes dans le Nouveau Testament, et pour l'ensemble d'entre eux, ce ne sont pas des textes d'histoire, ce ne sont pas des textes de péripéties, mais ce sont des textes d'enseignement, ce sont des textes théologiques, et malgré tout cela, Paul disait qu'il laissait tout cela de côté parce que l'important pour lui était d'annoncer le salut en Jésus-Christ, sachant que lui-même avait été saisi, avait été sauvé par Jésus-Christ. Alors la question pour toi, dans tout ce que tu fais pour Dieu, quelle est la proportion de ce partage de l'Évangile? Dans tout ce que tu dis faire pour Dieu, quelle est la portion qui cadre dans le fait de partager l'Évangile? Parce que c'est de là que vient cette couronne ou ce prix pour lequel Paul courait et sur lequel il gardait l'objectif. Son objectif, c'était « je me fais tout à tous pour en gagner au moins quelques-uns ». Je me suis fait grec avec les grecs, je me suis fait juif avec les juifs, je me suis fait comme sans loi avec ceux qui n'avaient pas de loi, je me suis fait comme ayant la loi avec ceux qui avaient la loi, je me suis fait tout à tous afin d'en gagner au moins quelques-uns? Est-ce que tu te fais tout à tous afin d'en gagner au moins quelques-uns? C'est ça la vocation de l'Église. C'est ça la vocation de ta vie, de gagner des âmes pour Jésus. Il y a trop de gens qui, et je le répète encore, je me répète ce matin, mais il y a trop de gens qui mettent une emphase particulière sur les dons et sur les talents et sur les ministères qu'on exerce au sein de l'Église, mais qui oublient le mandat premier de l'Église qui s'opère à l'extérieur de l'Église. Ton mandat, mon mandat primordial est d'amener des gens à Christ. Et si on ne refocus pas la chose, si on ne remet pas l'emphase où elle se doit, on pourrait passer des décennies et des décennies sans amener quiconque à Jésus. Et ce faisant, je passe à côté du prix. Je regarde Jésus, je regarde le prix, je regarde ce qui pourrait m'appartenir, mais tout ce que je fais, c'est je le regarde et je ne gagne personne à Jésus. Alors le défi pour toi et pour moi, aujourd'hui, c'est de s'interroger et d'interroger clairement le Seigneur. Est-ce que je fais mon boulot? Est-ce que je partage l'Évangile? Et je crois que tu n'as pas besoin de discernement du Saint-Esprit pour savoir si oui ou non tu le fais. Est-ce que l'évangélisation est une partie prenante de ton existence? Est-ce que l'évangélisation est une deuxième ou une première, en fait, nature dans ta vie? Est-ce que tu parles de Jésus spontanément? Est-ce que tu as l'audace, l'hardiesse d'aller parler de Jésus aux gens autour de toi? Ou tu attends que quelqu'un d'autre le fasse? Peut-être que tu as de l'aisance à parler aux chrétiens, peut-être que tu as de l'aisance à témoigner à tes frères et à tes sœurs qui sont déjà sauvés, mais en part les encourager de continuer à aller de l'avant, tu ne ramènes personne d'autre dans le royaume de Dieu, et il y a des brebis qui se perdent, et c'est ta responsabilité et ma responsabilité d'aller à la recherche de ces brebis qui se perdent. Alors j'espère qu'aujourd'hui tu comprends quelle est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Sauver un maximum de brebis. Sauver un maximum d'hommes et de femmes pour le royaume de Dieu. Alors on va prier ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce que ce matin, Seigneur, tu nous éclaires. Tu nous parles. Combien de fois, Seigneur, on regarde aux dons qu'on espère avoir, aux ministères qu'on voudrait pratiquer. Et on oublie, Seigneur, que notre première responsabilité est d'être des témoins de ton royaume auprès des inconvertis. Seigneur, la première raison d'être de l'Église est d'amener des brebis dans la bergerie. D'amener des brebis qui sont égarées dans la bergerie. La première raison d'être, Seigneur, de nous qui avons été sauvés est d'être des agents de salut pour d'autres. Alors, Seigneur, pardon pour toutes ces périodes, ces mois, ces années peut-être, dans lesquelles on s'est tout simplement penché sur nous-mêmes. Toutes ces occasions, Seigneur, où nous avons regardé pour nous-mêmes des dons, des ministères, des manifestations quelconques de ton esprit, mais c'était pour nous. Alors, Seigneur, qu'il y avait des générations qui étaient en train de périr à l'extérieur. Seigneur, alors que tu nous parles dans cette période de confinement, alors que nous prenons plus de temps pour étudier ta parole, tu nous permets, Seigneur, de nous recentrer sur toi, mais aussi, Seigneur, de recadrer les choses dans leur juste valeur. Et Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que le prix d'une âme est immense. En fait, le prix d'une âme, Seigneur, ça a été le don de ta propre vie. Et lorsque nous ne partageons pas le message de l'Évangile, nous rendons nul le sacrifice que tu as accompli sur la croix. Alors Seigneur, au même point où on a été saisi par ce même salut, nous voulons être des agents qui propagent le salut en Jésus-Christ. Au même titre, Seigneur, où nous avons bénéficié de ta grâce et de ta miséricorde, nous voulons aussi, Seigneur, partager cette bonne nouvelle. Non pas entre nous pour nous réjouir d'avoir été sauvés, sanctifiés, purifiés, rachetés, mais Seigneur, que nous ayons ce feu qui brûle en nous de faire rentrer, Seigneur, d'autres gens dans ta bergerie. D'amener, Seigneur, des hommes, des femmes à te rencontrer comme nous l'avons fait et à être sauvés eux aussi. Alors je prie que les paroles de ce matin, Seigneur, puissent brûler et retentir fortement, Seigneur, dans le cœur, dans les pensées de ma sœur et de mon frère, afin qu'ils se positionnent, eux aussi, pour parler de toi. Paul, Seigneur, l'enseignant premier du Nouveau Testament, Paul, ce grand docteur de la loi, Paul, Seigneur, de qui on disait que les textes étaient compliqués, étaient lourds, Paul avait tout de même comme première emphase de se faire tout à tous pour en gagner au moins quelques-uns. Que ce même esprit nous habite, que cette même motivation nous habite, que cette même compréhension de notre vocation nous habite, afin que dorénavant, nous ne puissions pas nous taire, mais nous propagions et nous partagions ton évangile de grâce. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle les rendez-vous de cette semaine. Ce soir, 19h avec le pasteur Sergio. À 19h, donc, servir Dieu en des temps de défi. Donc, c'est toujours approprié pour notre période actuellement. Donc, soyez là. Aussi, rappelez-vous que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. Donc, si vous êtes une personne seule de 55 ans et plus, si vous êtes en couple mais que vous êtes seul à fréquenter l'église, vous avez 55 ans et plus, vous pouvez aussi vous inscrire. Et enfin, si vous êtes un couple qui fréquente l'église, si vous avez 65 ans et plus, vous pouvez aussi, au moins un des deux qui a 65 ans et plus, vous pouvez aussi vous inscrire. Vous appelez donc au 273-8295 dans le 514. Je répète, 273-8295 précédé du 514. Et vous laissez un message sur la boîte vocale. Vous dites « Je veux » ou « Nous voulons » nous inscrire. On prend vos noms, on prend votre numéro de téléphone. C'est bien important de le laisser. Et après ça, on vous rappelle à travers la matinée ou la journée de vendredi. C'est la sœur Patricia qui va vous appeler de la part de l'Église pour confirmer votre place pour dimanche. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas, appelez. Les réservations se font à toutes les semaines. On ne prend pas une réservation pour 3 semaines de suite. On renouvelle nos réservations à chaque semaine. C'est comme ça qu'on procède pour l'instant. S'il y avait un changement, on vous aviserait. Mais pour l'instant, on se réinscrit à toutes les semaines. Alors, juste avant que je ne salue quelques personnes, j'ai vu son nom apparaître tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est le 47e anniversaire de Bien-Aimé que certains d'entre vous connaissent de l'époque de l'église de Shawinigan. Donc, 47e anniversaire de mariage de Gaétan Dugal et de son épouse Ginette. Et on est donc content de vous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. 47 ans, ça commence à compter. On n'est plus qu'à 3 ans d'un demi-siècle. On vous souhaite de dépasser cette date-là, même de nombreuses années. Donc, on s'unit à Karine et à Sarah, vos filles, pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Alors, ceux qui veulent leur souhaiter joyeux anniversaire, vous regardez dans les personnes qui se sont jointes à nous ce matin. Vous regardez pour Gaétan Dugal. Et puis, vous pourrez souhaiter donc joyeux anniversaire à Gaétan et à Ginette. Alors, les personnes que nous saluons ce matin, Bonjour à Pascal et à Gabriel. Bonjour à Didier. Bonjour à Milly. Bonjour bien sûr à Gaëtan. Bonjour à Ramon. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à la sœur Argelia. Bonjour à Florence. Bonjour à Nenji. Bonjour à Daniel. Daniel Le. C'est Daniel Long. On a déjà salué un autre Daniel tout à l'heure. Je pense que c'est tout pour ce matin. Donc, encore une fois, inscription pour le culte de ce dimanche qui sera le 19 juillet. Donc, inscription pour dimanche. Et puis, inscription donc pour les trois groupes en question que je ne répéterai pas. On vous rappelle l'étude biblique ce soir. Et bien sûr, on se retrouve nous demain matin pour un autre temps de bénédiction matinale. Alors, soyez de bons témoins. Courez la course. Remplissez la vocation de l'Église, remplissez de la vocation de tout chrétien et allez parler de Jésus aujourd'hui. Allez amener le salut autour de vous et soyez des champions pour la cause de Christ. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Joyeux anniversaire à Gaëtan et Ginette. On vous embrasse d'un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve nous tous ce soir avec le pasteur Sergio et demain pour notre bénédiction matinale. Bonne journée à tous!